Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Élections ce vendredi des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC. Dans ce journal, un tour d'horizon complet du scrutin organisé par la CENI dans le calme. Rendez-vous manqué pour les forces sociales et politiques de la nation, dont le sit-in prévu ce vendredi au palais du peuple à Kinshasa a été dispersé par la police. Les manifestants voulaient obtenir du Parlement une loi électorale consensuelle pour les élections de 2023. Notre invité, c'est le président des sages-femmes du Sud-Kivu, Nestor Bafunyembaka, affirme qu'environ 1200 membres de sa corporation, dont 25 hommes, travaillent comme sages-femmes dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masserica, mise en nom de Demi Kindou. Quelques provinces de la RDC sur les 14 concernées par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs connaissent déjà les noms de leurs dirigeants à l'issue des élections organisées ce vendredi par la CENI, pour la plupart dans le calme. D'autres devraient encore attendre le deuxième tour. Explication avec vous, Pierrot et la Magie.
Élu par 18 députés sur 22 votants, Kishabongo Radia Bukindanda Hubert a été porté à la tête de la province du Maniema, accompagné de Yuma Yafali Bernard comme vice-gouverneur. La province du Kasaï Oriental sera dirigée par Patrick Mathias Kabeyama Chabidi de l'UDPS. Il sera accompagné de Madame Julie Kalenga comme vice-gouverneur. Le Kasaï Central sera dirigé par John Kabeyi Shikai qui a obtenu 22 voix sur 33 votants et il sera secondé par Martin Makita Famba comme vice-gouverneur. La province de la Lomami sera dirigé par Nathan Ilunga Numbi, élu avec 17 voix sur 26 votants. Notons que trois femmes ont été élues comme gouverneurs. Il s'agit d'Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, élue avec 17 voix sur 28 votants pour diriger la province du Haut-Lomami. Rita Bola, qui va diriger la province de Maïndombe, ainsi que Julie Ngungwa Mwayuma, élu gouverneur de la province du Tanganyika avec 14 voix sur 25 votants. Le Sankuru sera dirigé par Jules Lodi Emongo, candidat indépendant, qui a été élu gouverneur. Au Bazuélé, c'est le professeur Nzanza Mombiti qui a été élu gouverneur de province et qui sera secondé par le chef des travaux Christophe Kondianga, vice-gouverneur. La province de la Mongala sera dirigée par César Limbaya, élu avec 13 voix sur 20 votants et son vice-gouverneur, c'est Blaise Mongo. La province du Congo central devra attendre le deuxième tour qui devra départager Madame Nefertiti Ngoudjanza et le docteur Gumbandou qui ont obtenu 10 voix chacun. Même situation dans la province de la Chopo, où Madame Nikomba Madeleine, avec 11 voix, va affronter au second tour Tony Kapalata, qui a obtenu 9 voix. La province du Kwango a vu Saturnin Tangandandou, élu vice-gouverneur avec 20 voix sur 20. Gérard Mulumba Wankongolo, dit Jekoko, a été élu vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec 46 voix sur 48 votants. Rappelons que la majorité des candidats élus ont été présentés par l'Union Sacrée.
Merci Pierrot et la Mégie pour ces précisions. Tout de suite, allons dans le Haut-Lomami où Madame Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, présentée par l'Union Sacrée de la Nation, a été élue aujourd'hui gouverneur. Elle était jusque-là présidente de l'Assemblée provinciale. Elle avait en face d'elle 5 autres challengers, dont 2 se sont désistés. Elle est donc appelée à relever cette province qui peine à décoller malgré ses nombreuses richesses. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Gandou.
C'est avec 17 voix sur 28 votants que Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi est élue gouverneure de la province du Haut-Lomami. Elle hérite d'une province rongée par de nombreux problèmes. C'est notamment son sous-développement caractérisé, entre autres, par les mauvais états de routes qui rendent difficile l'évacuation aussi bien des produits agricoles vers les centres de consommation que de minéraux tels le cuivre, le coltan, la cassitérite et autres. À cela s'ajoutent aussi les déficits en énergie électrique. Toutes ces difficultés font que les investisseurs traînent les pas. Il y a également les taux de chômage des jeunes qui est très élevé. Contactés, certains ressortissants de Kamina demandent aux députés provinciaux de faciliter la tâche à la nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise sur pied en évitant d'initier des motions de censure qui pourraient déstabiliser la province. À la nouvelle gouverneure, il recommande de composer son gouvernement sur base de la méritocratie tout en accordant aussi une place de choix aux jeunes compétents et que cette équipe soit représentative de tous les 6 territoires qui composent la province du Haut-Lomami. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans la Tchopo, aucun candidat n'a obtenu aujourd'hui la majorité requise pour occuper le poste de gouverneur. Des 12 candidats en lice, 2 se sont démarqués en remportant plus de voix que les 10 autres. Il s'agit de Madeleine Nikomba et Tony Kapalata qui ont eu respectivement 11 et 9 voix de 28 députés provinciaux votants. À Kisangani, le récit de Jacques Mkongole.
Les 11 voix obtenues par Madeleine Nikomba n'ont pas suffi pour arracher la victoire au premier tour. Son poursuivant immédiat, Tony Kapalata, ayant réalisé 9 voix, l'a contraint au second tour. Pour le professeur Casimir Ngumbi, ce vote traduit la volonté de changement des députés provinciaux.
La dame a convaincu. Quand j'étais là, même Kapalata aussi. Hein. Moi, je vois que des députés ont tranché. J'ai l'impression que moi, c'est une dame à la tête de la province de la Tchopo. C'est quelque chose d'innovant. On va voir ce qui va se passer. Il faut quand même, dans un premier temps, au niveau de l'opinion, soutenir l'Assemblée provinciale par rapport à ces changements voulus à travers les élections.
Le score réalisé par Madeleine Nikomba prouve que le message des femmes est bien compris. Tel est l'avis de Charlie Andiro du Fonds pour les femmes congolaises.
Le fait que la femme ait obtenu le plus de voix, pour moi c'est déjà quelque chose d'encourageant, c'est-à-dire les messages commencent à produire les fruits escomptés. Le message c'est qu'on ne peut pas exclure la femme dans la gestion de la chose publique.
Au second tour, certains pensent que l'attitude affichée par Jean-Pierre Kasusula, arrivé en troisième position avec 5 voix, pourrait être déterminante en faveur de l'un ou de l'autre candidat resté en compétition. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Kapi.
Notez que dans le Bazouélé, le professeur Nzanza Bombili est élu gouverneur. Il a obtenu 10 voix sur 18 votants. Son vice-gouverneur, c'est le chef des travaux Christophe Kondianga. Nzanza Bombili est du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU de Lambert Mende, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Tandis que le vice-gouverneur est de l'UMLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. À l'ouest du pays maintenant, le nouveau gouverneur du Congo central sera connu lundi prochain. À l'issue du vote organisé ce vendredi par la CENI, deux candidats en lice ont obtenu 10 voix ex aequo. Il s'agit du docteur Guy Bandou et Nefertiti Gundianza. Plusieurs candidats n'ont obtenu aucune voix. Le vote s'est déroulé dans le calme, comme nous l'explique Amatadi Nana Plurichmambou.
Les 41 députés provinciaux du Congo central n'ont partagé leur voix qu'à 10 candidats parmi les 22 qui étaient en lice pour les postes du gouverneur. Tous les 12 autres candidats, dont les députés nationaux de Honkoussou et des députés honoraires, Zachary Badiengila alias de Mwandansemi et Eugène Diomindongala, ont obtenu 0 voix. Dans ce lot des 10 candidats ayant obtenu 2 voix, la sénatrice Nefertiti Ngudianza Kisula et le docteur Guy Bandundungidi ont obtenu chacun 10 voix. Ils sont suivis d'Itike Rolinzazi et Alain Mambimbi Wan qui a obtenu 5 voix. Les sénateurs Roger Mokamwaka, le vice-ministre du plan Crispin Mbadou et le député national Muller Lutelo, dont les pronostics s'est penché en leur faveur, ont obtenu 3 voix chacun. Justin Lwemba Asimon, l'intérim du gouverneur du Congo central, n'a obtenu que 2 voix. Pour départager la sénatrice Nefertiti Ngudianza et le docteur Guy Bandou ayant obtenu 10 voix ex aequo, les secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI devraient organiser dans 72 heures un deuxième tour de cette élection. Paul Moindo, rapporteur adjoint de la CENI qui supervise ces processus, a indiqué que, selon la loi électorale, s'il arrive qu'au second tour, les 2 candidats obtiennent encore le même voix, c'est le plus âgé qui va remporter ce scrutin. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Un peu plus au centre du pays, Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi a été élu aujourd'hui gouverneur du Kasaï Oriental. Il devient ainsi le 35e gouverneur de la province. Il remplace à ce poste Jean-Maweja Muteba, déchu en mois d'avril de l'année dernière par l'Assemblée provinciale en Mbujimayi. La correspondance d'Esther Ndalafina.
C'est donc le ticket Mathias Kabeya Machi Abidi et Julie Kalenga qui va désormais diriger la province du Kasaï Oriental. Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi s'est qualifié à l'issue d'un scrutin lui accordant 100% de voix. Il remplace ainsi Jean-Maweja Muteba, gouverneur déchu au mois d'avril 2021 par l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental qui l'a accusé d'incompétence notoire, de mégestion et de détournement de deniers publics. Les gouverneurs déchus et celui élu ce jour sont tous membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Cependant, le ticket Mathias Kabeya et Julie Kalenga a été présenté à cette élection pour le compte de l'Union sacrée de la nation après l'élection primaire organisée par l'UDPS. Quelques minutes après la proclamation des résultats provisoires, le vainqueur a remercié le chef de l'État, les députés provinciaux pour les choix portés sur sa personne. Notons que les opérations électorales se sont déroulées dans le calme et la transparence. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Non loin de la Kasaï centrale, John Kabeya de l'UDPS a été élu aujourd'hui gouverneur en mission à Kananga. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale salue le choix de ce cadre du parti présidentiel. André Mbata est au micro de François Kadima.
Bon, nous sommes très heureux que cette province ait prouvé à la face du monde et de la nation qu'elle reste le berceau de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation. C'est le centre du pays. Lorsque vous avez le cœur du pays, vous avez le pays tout entier. C'est ça le message que le Kasaï central envoie pratiquement à la nation tout entière, au monde entier, qu'au centre, là où bat le cœur de la nation, ce cœur reste fidèle à Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons un gouverneur, nous aurons un gouvernement provincial. Eh bien, ce sera un canal maintenant approprié pour que le président de la République réalise tout ce qu'il a promis au peuple ouest-kassaïen. Je pense ici à la route, par exemple, Kalambambouge. Je pense au projet sur l'électricité. Je pense à plusieurs initiatives que le président de la République, qui est venu ici au mois de décembre, va pouvoir appliquer. Ce sera mis en valeur. Mais le canal obligé pour le faire, ce sera le gouvernement provincial qui sera dirigé par le gouverneur Kabeya, à qui nous présentons nos vives félicitations.
Et puis Mulumba Kongolo ou à Kongolo, DJ Koko a été élu aujourd'hui vice-gouverneur de la ville de Kinshasa avec 46 voix sur les 48 députés provinciaux votants. Le rapporteur de l'organe délibérant de Kinshasa affirme que le choix de DJ Koko va ainsi permettre au gouverneur de répondre efficacement aux aspirations des habitants de la capitale. Revenons ici à Kinshasa où les sit-in qui étaient prévus par les forces sociales et politiques de la nation ce vendredi devant le siège du Parlement n'a pas eu lieu. Les manifestants ont été dispersés au gaz lacrymogène par des policiers qui avaient quadrillé le rayon. Les manifestants voulaient obtenir du Parlement une loi électorale consensuelle pour les élections de 2023. Aubin Abedi signe le reportage.
Il était pratiquement impossible d'accéder au palais du peuple ce vendredi. Toutes les entrées étaient gardées par des éléments de la police nationale. Du côté du stade de Martyrs, sur le boulevard Triomphal, des policiers s'efforçaient de contenir des militants des partis politiques et autres manifestants qui voulaient coûte que coûte atteindre le palais du peuple. La police a recouru aux grenades lacrymogènes pour les disperser. Pour le militant de l'ECID, la loi électorale ne peut pas passer sa consensus.
Ce sitting a comme objectif d'empêcher les députés de cette Assemblée nationale illégitime de discuter de manière cavalière, de manière dictatoriale au sujet de la loi électorale.
Présent sur le lieu, le patron de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, rassure que la situation est sous contrôle.
Vous avez vu, les policiers sont là, ils ont les matériels anti-émeutes, les matériels non létales. Ces gens sont venus, ils ont caillassé les véhicules des gens, il y a des policiers qui sont blessés. Les policiers ont usé des lacrymogènes, alors les gens que vous voyez étaient asphyxiés. D'autres, c'est même dénudé lui-même. Alors la police a usé des lacrymogènes, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien, ils sont au monde de compte. Ils sont même pas venus de descendre. La situation est sous contrôle, la situation est fluide. Ce sont des gens qui cherchent à faire des buzz.
Du côté des manifestants, on signale quelques blessés.
Dans un autre chapitre, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu ont commémoré hier jeudi le 25e anniversaire du massacre du 5 mai 1997 dans la ville de Kenge au Kwango. L'événement a été ponctué par une messe d'action des grâces en mémoire des victimes en la cathédrale Notre-Dame à Noirité et le lancement des travaux d'aménagement de la statue de la pleureuse. C'était en présence du gouverneur Jean-Marie Petit-Petit. Des précisions avec le président de la Belle Javiba, Faustin Bimitia s'est confié à Irène Boma.
en collaboration avec l'association des victimes des massacres du 5 mai 1997. Comme chaque année, l'ASBEL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Javiba Ansig, vient d'organiser une messe de suffrage en mémoire des victimes des massacres du 5 mai 1997 en marge de la guerre de la libération menée par l'AFDEL. Aujourd'hui, ces massacres totalisent 25 ans depuis que les habitants du Grand Bandundu ont été massacrés et ces morts n'ont jamais été commémorés. Après la messe, ensemble avec le gouverneur de la province et différentes autorités provinciales, nous venons de lancer les travaux d'aménagement du site de la statue la plus heureuse pour construire un mémorial en mémoire des victimes des massacres du 5 mai 1997. Et nous lançons une collecte de fonds pour cette construction. Javiba réitère son soutien à la démarche de l'instauration d'un tribunal pénal international pour le Congo que prône le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, et COPAX, Conscience Congolaise pour la paix.
Actualité internationale.
On passe à l'actualité internationale. Au 72e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce vendredi, un nouveau convoi des Nations Unies est attendu pour évacuer les civils retranchés à Mariupol sans assurance d'une trêve des combats. 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués vendredi matin dans 2 embuscades tendues par des terroristes dans la région du nord et du centre du pays. La nouvelle a été confirmée par l'armée citée par l'AFP. Et puis l'ex-président de la Géorgie, Mikhail Saakachvili, dont la santé s'est nettement amenuisée par la faim en prison, risque de mourir s'il n'est pas soigné au plus vite. On mis en garde ce vendredi matin des médecins. Âgé de 54 ans, Mikhail Saakachvili dénonce son emprisonnement à la suite d'une condamnation pour abus de pouvoir qu'il dénonce.
L'invité.
Notre invité, c'est le président des sages-femmes du Sud-Kivu, Nestor Bafunyembaka, affirme qu'environ 1200 membres de sa corporation, dont 25 hommes, travaillent ces jours-ci comme sages-femmes dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Nestor Bafunyembaka, bonjour.
Bonjour, maman journaliste.
Quelle est aujourd'hui la situation de la sage-femme dans la province du Sud-Kivu?
Et c'est l'insécurité. L'insécurité fait à ce que la sage-femme ne fait pas son travail comme il faut. Et vous verrez aussi la distance des maternités. Et on ne peut rien faire, on se démène pour tout arranger, mais c'est difficile, maman. Pour cela, les sages-femmes se donnent pour arriver à des endroits là, mais disons qu'ils sont vraiment insécurisés et aident la population par rapport à ce que nous venons de comprendre.
Vous aviez dit que la sage-femme était marginalisée. Pourquoi?
La sage-femme, allez voir combien, ou allez demander à la sage-femme, elle touche combien, disons chaque mois ou après le mois. À la fin du mois, la sage-femme reçoit peu par rapport à ce qu'elle a travaillé. Heureusement, nous sommes donnés comme des humains de travailler dans l'apostolat, aider la population, voir la mère et l'enfant sortir sans problème, et cela, ça nous fait vraiment fiers. Mais seulement, le problème de nos responsables de maternité, que ce soit le médecin directeur, que ce soit par exemple l'IT, il y a encore un problème de méfiance. Vous verrez par exemple, ils ont une sage-femme en train de travailler, mais elle est sous pression. Et c'est là ce qui demande à ce que la sage-femme doit travailler dans la calmie pour résoudre et donner un bon résultat. À qui des droits.
Elle n'est pas considérée aussi,
c'est ça? Bon, non, elle n'est pas considérée, que c'est ce que je peux dire. Vous verrez par exemple que dans quelques structures, la sage-femme ne peut rien décider, ou même à la maternité, ça peut y avoir par exemple un problème quelconque, mais quand la sage-femme dit une proposition, il y a un responsable refuse, non, ça ce n'est pas vrai. Alors que ce que la sage-femme devrait dire, c'est ça ce qui serait mieux pour la pauvre parturiante.
Vous plaidez aujourd'hui pour la création d'un ordre national des sages-femmes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous?
C'est important pour nous puisqu'il faut que nous nous solidarisons, que nous soyons vraiment aussi dans notre corporation, que personne ne dit aux ceci ou cela pour essayer, disons, de nous bousculer. Puisque quand il y aura un bousculade quelque part, nous envoyons aussi l'information à qui de droit, à nos supérieurs qui sont jusqu'au niveau, à l'échelon national, pour essayer, disons, de nous aider dans ces problèmes dans lesquels nous sommes entrés.
Vous demandez aussi l'implication de la Première Dame dans la création de cet ordre national des sages-femmes. Pourquoi?
Premièrement, vous savez qu'elle est membre, disons, de la corporation. Elle doit nous aider ou elle nous aide chaque fois à élaborer, à faire quelques programmes. Et elle demande pour nous à l'Assemblée nationale pour que cet ordre soit directement promulgué.
Pour terminer, aujourd'hui vous êtes un homme. Il est très rare de trouver un homme qui exerce en tant que sage-femme.
Et vous savez que vraiment, ce que vous venez de dire, c'est une réalité, mais sachez bien que la médecine n'a pas de sexe. Et deuxièmement, vous verrez que la sage-femme homme, c'est ça ce qu'on va appeler maïticien. C'est l'homme qui travaille auprès de la mère et de l'enfant. Et vous ne verrez pas seulement les sages-femmes, femmes, disons, travailler à la maternité sans homme, puisque ils s'entraident dans tel ou tel problème, dans telle circonstance, pour essayer, disons, de faire évoluer et améliorer, disons, la situation.
Donc ce n'est pas un tabou qu'un homme exerce comme sage-femme.
Non. Le tabou est déjà terminé. Pour les hommes, c'est déjà mis de côté. La sage-femme, homme, travaille dans l'honnêteté.
Alors vous pouvez lancer un message aussi aux autres étudiants qui, par exemple, ne veulent pas devenir sage-femme parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup trop de femmes.
Je devrais dire que ces sages-femmes, hommes, ou les étudiants qui veulent la sage-femme, hommes, disons, qu'ils viennent. Puisque les hommes sont là, ils doivent être encadrés et ils seront encadrés par ses collègues qui sont là.
Nestor Bafunyimbaka, je vous remercie.
Merci, maman.
C'était l'invité de Radio Kapi, le président des sages-femmes du Sud Kivu, Nestor Bafunyimbaka, a été interviewé à Bukavu par Cynthia Bachizina Bizana. Et c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Pierre Oela Meji, sous la supervision éditoriale de Noël Aluzutu Kamambi.